Frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Est-ce que vous êtes content ce matin? Comment a été la semaine? On est tous avec sa carte de pelouse pour observer ce qui se passe. Mais rassurez-vous, notre Dieu, il ne s'endort pas. Il veille. Que son nom soit béni dans nos vies. Nous avons choisi ce matin et ce passage de l'Écriture pour le message de la parole de Dieu. Ce passage se trouve dans Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, le verset 42. Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Encore une fois, veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le titre de notre prédication ce matin, c'est un retour qui bouleversera le monde. Un retour qui bouleversera le monde. L'histoire de Jésus a traversé toutes les frontières de l'humanité. Et c'est la plus belle histoire que le monde n'a jamais connu. Et elle est toujours nouvelle, l'histoire de Jésus. Le récit de Jésus est développé en quatre thèmes inépuisables. Sa naissance, sa mort, sa résurrection et son retour. Et c'est le retour tant attendu qui fait l'objet de notre prédication ce matin. Notre message va statuer sur trois points fondamentaux. Les signes avant-coureur du retour de Jésus. Comment attendons-nous ce retour? Et enfin, quand sera ce retour? Nous apprécions toujours les proverbes, parce que c'est écrit dans la Bible, Un homme averti en vaut deux. Et nous sommes instruits par les événements du passé. Nous n'oublions pas le passé. Jésus avait annoncé les signes avant-coureurs qui annoncent son retour par des mots bouleversant. Regardez, dans ce même Matthieu 24, dans les versets 6 jusqu'à verset 8, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Ça veut dire qu'il faut vous serrer les reins. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et nous y sommes. Sans commenter ce qui se passe, sans commenter sur ce qui se passe autour de nous, nous n'avons pas besoin de commentaires. Parce que nous sommes tous collés aux infos d'aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a la fin de ce monde de méchanceté souillée de sang et de cadavres des innocents. Il faut que l'Éternel vienne et arrête ce robinet. Il y a un auteur qui dit, la méchanceté de l'homme a surpassé sa sagesse jusqu'à ce qu'il ait peur de ce qu'il sait. Et c'est vrai. Si Lavoisier savait que la chimie peut détruire le monde en appuyant seulement sur un bouton, il ne l'aurait pas inventé. Notre salut vient des Juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été détruits. Et les conséquences de la guerre sont multiples. Elle change le destin de l'homme, laisse des enfants orphelins et des femmes veuves, sans compter la misère et la pauvreté. Alors que, qui veut la guerre? Qui aime la guerre? Nous, les élus de Dieu, nous attendons avec confiance et certitude le retour glorieux de Jésus. Il l'a annoncé déjà, c'est une promesse. Dans Jean 14, il dit que je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Attention, si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir cette espérance. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui vont bénéficier de cette place préparée d'avance. Si ce matin vous êtes là, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme sauveur dans votre vie. Vous ne pouvez pas attendre avec joie le retour de Jésus-Christ. Parce que ce retour va être bouleversant. Non seulement la Bible parle de guerre, et des bruits de guerre avant le retour de Jésus. Il y aura aussi des tremblements de terre et des cataclysmes naturels. Et nous voyons les feux qui emboisent le monde. Nous voyons les inondations.
Nous voyons les tremblements de terre. Et en diversifier des pestes, épidémies ou pandémies que nous connaissons depuis plus que 2 ans. Il y aura aussi des famines qui empêchent que les habitants mangent à leur faim. Quand on se lève en tant que parent, on ne peut même pas donner un morceau de pain à son enfant. C'est un problème. L'enfant n'a pas besoin de savoir s'il y en a ou bien s'il n'y en a pas. Hein. Ah, il a faim, il faut lui donner à manger. L'enfant n'a pas besoin de savoir si la carte bleue, il y a de l'argent. Il a besoin de ça, il faut qu'il le trouve. Le programme alimentaire mondial, une branche de l'ONU qui s'appelle PAM, est impuissant pour subvenir aux besoins d'approvisionnement de l'humanité, entre guillemets. Nous sommes en train de suivre la déchéance de l'humanité. Parce qu'il s'en est trop. Et le monde évangélique est bouleversé aussi par des faux Christ, faux frères et faux prophètes. Si vous suivez les études, les mercredis soirs ici avec Frère Justin dans Jude, vous allez voir, tout est clair. Tout est clair. Et ils sont là parmi nous. Ces faux Christ, ces faux frères, faux sœurs, faux prophètes, ils sont là parmi nous. Et comment pouvons-nous nous en débarrasser? Et c'est faux. Ils sont là pour contredire la parole de Dieu. Pour dire contrairement à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel dit à Jérémie, à cause de la désobéissance de ce peuple en rebelle, il dit, je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Jérémie a interrompu l'Éternel tout de suite. Dans Jérémie chapitre 14, Jérémie interdit Dieu pour lui rappeler que les faux prophètes contredisent ton message. Je ne suis pas là, vous n'avez pas besoin d'appeler. Dans Jérémie 14, dans le verset 13, l'Éternel dit, Jérémie dit, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, alors que l'Éternel l'avait déjà annoncé. Hein? Je vais les détruire par l'épée, et par la famine, et par la peste. Et ils disent, voici, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Ils contredisent ce que l'Éternel a dit. Et l'Éternel dit à Jérémie dans le verset 14, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors attention, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les infos tombent comme des grains de pluie sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux. L'Esprit m'a dit, l'Éternel m'a dit, j'étais en réveil, et puis l'Esprit m'a dit que frère Roland, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Frères et sœurs, attention à ces faux prophètes. Et ils sont parmi nous. Non seulement à Argenteuil, ils sont aussi du nombre de ceux qui suivent le Seigneur. Et attention, ils sont des faux. Il n'y a un seul Jésus, un seul Esprit et un seul Évangile. Il n'y a pas d'autre. Paul dit à l'église des Galates, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Et à la fin du sermon de Jésus sur la montagne, il dit à ses disciples dans Matthieu 7, le verset 15. Dans Matthieu 7, le verset 15, il dit à ses disciples, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Et cette déclaration nous dirige directement vers le deuxième point. Comment attendons-nous le retour de Jésus? Est-ce que c'est en dormant? Si vous êtes encore dans le lit de sommeil, eh bien le Seigneur il arrive. Nous ne devons pas rester encore en sommeil. Réveillons-nous. Parce que Christ est à la porte. Il faut veiller et prier en tout temps afin de ne pas tomber en tentation. Veiller et prier. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes ce matin? Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous observons ce que dit la parole de Dieu? Ah oui, le mercredi soir, c'est toute cette foule hein, qui est là pour l'étude de la parole de Dieu. C'est pas vrai, Pasteur Aldo? Frère Justin, pendant les études, c'est toutes ces personnes qui sont là. Après, il y a la prière. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Voilà pourquoi nous devons rester veillés et prier. Car notre adversaire, le diable, il rôde autour de nous pour nous dévorer. Et je ne cesse de vous répéter que cet adversaire, le diable, il est là. Ce n'est pas ailleurs derrière les murs. Il est là. Il agit en nous par orgueil que nous avons, par le manque d'amitié, par le manque d'amour, par la discorde, par la division, par la supériorité que nous avons par rapport aux autres. L'adversaire, il est là et il agit en nous. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut prier. Nous devons rester vigilants et monter la garde comme des sentinelles, comme des soldats postés à la garde pour annoncer l'arrivée de l'ennemi. Est-ce que vous êtes des sentinelles ce matin? Est-ce que vous êtes des sentinelles? J'ai cherché, frère, dans le livre des chants sur les ailes de la foi. J'ai trouvé ces chants concernant sentinelles dans 364 sur les ailes de la foi. Il dit sentinelle vigilante. Qu'en est-il donc de la nuit? Dit à l'âme somnolente que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui, sentinelle sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous, au loin gronde la bataille. Même quand ce n'est pas ici, mais en Ukraine, nous pouvons entendre les bruits. Tout est sombre autour de nous. Point de repos, point de relâche, rachetez de l'Éternel, travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Est-ce que vous êtes des sentinelles? Vous êtes en train de veiller. Jésus avait exhorté à ses disciples à faire preuve de vigilance contre les faux prophètes qui se sont détournés de la saine doctrine, qui se sont égarés dans de vains discours et qui se sont attachés à des fables. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 7, Paul parle à son fils pour lui dire que ces faux prophètes, ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il y a un docteur, il y a beaucoup de connaissances. Hein? La vigilance est associée de près avec la prière. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que nous veillons, frères et sœurs? En tant que sentinelles, nous sommes chargés de surveiller, de protéger et d'annoncer que l'ennemi arrive. Dans votre travail, dans le voisinage, dans la rue, dans les transports, est-ce qu'on peut voir en nous, en qui que nous soyons, l'évangile qui brille?
Est-ce qu'on peut voir les sceaux du Saint-Esprit dans nos fonds? C'est pas un sceau matérialisé, mais notre comportement, notre façon d'agir, nos réactions, est-ce que ça prouve que nous portons le sceau du Saint-Esprit? Pour dire comme Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. Il faut souvent, là où vous êtes, eh bien, nous avons honte de dire qui sommes-nous? Je suis membre de l'église baptiste d'Argenteuil. Est-ce que vous avez l'habitude de dire ça dans votre travail? Ou bien, vous n'avez même pas besoin de le dire, on voit que vous êtes un enfant de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, à partir de votre comportement. Le danger pour nous, les croyants, est de nous laisser séduire par les faux Christ et les faux prophètes. C'est ça le danger. Jésus avait demandé à ses disciples de veiller, car ils ne peuvent pas savoir quel jour, quelle heure le Seigneur viendra. Alors, est-ce que vous savez quel jour, quelle heure le Seigneur viendra? C'est écrit dans Matthieu 25, verset 13. Il faut veiller, car nous ne savons pas quel jour, quelle heure. Si nous savions quand les voleurs arrivent, mais les voleurs ne nous atteindraient pas. Mais Jésus, il va venir comme un voleur. Voilà pourquoi ça va bouleverser le monde. Parce que le monde n'a jamais cru à ce qu'il dit. Et quand sera le retour de Jésus? Il y a quelqu'un qui puisse me le dire? Selon Pierre, Dieu ne calcule pas le temps comme les hommes. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu veut qu'autant de personnes que possible soient sauvées. Son désir est qu'aucun périsse et que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi il use encore de patience, hein, envers nous. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 24, ce même Matthieu 24, dans les derniers jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et c'est comme ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans le verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure du retour, bien sûr, de Jésus, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et aujourd'hui, tout le monde annonce le retour de Jésus. Dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, ah, c'est l'Apocalypse, c'est la fin. Et qu'est-ce que nous avons là? Personne, même Jésus, ne sait pas, hein, le Fils de Dieu, Même lui, il ne sait pas quand sera ce retour, selon Matthieu 24, verset 36. Tout ce que nous vivons n'est que le commencement des douleurs. Pourtant, bien des dates et des époques eschatologiques ont été annoncées par des sectes et des faux prophètes, la fin des temps et le retour de Jésus. Ils sont dans le mensonge. Parce que la Bible est claire, personne ne sait sinon que Dieu. Parce que c'est lui qui sait tout, c'est lui qui fait tout. Le retour de Jésus n'est pas une utopie, ni une légende. C'est une assurance et une certitude. Jésus, il viendra. Et personne ne peut l'empêcher. Rien. Ne soyons pas comme les gens de l'époque de Noé. Comme Thomas qui restait sceptique à la résurrection de Jésus. L'histoire se trouve dans Jean 20, versets 24 à 29. Jésus lui a dit, heureux ceux qui ont cru, ceux qui ont vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que vous êtes ce matin des Thomas? Vous voulez voir avant de croire? Thomas avait dit, il faut que je voie les marques de clous qu'on avait percées. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez voir? Servir Dieu, c'est une question de foi. Nous savons que Dieu, il est au milieu de nous. Comment? Par la foi. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous savons et nous croyons, il est là. Il nous observe et il nous écoute. Nous n'avons pas besoin de chercher Christ ailleurs, d'une assemblée à d'autres, comme le font beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, il est membre de l'église baptiste d'Argenteuil. Demain, il est à Sanois. Après-demain, il est à Colombes. Après-demain, il est à Paris. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez Christ? Christ, il est là, hein? Il est en vous et il vit en vous. Et pourquoi avez-vous besoin de le chercher ailleurs? Christ vit en nous parce que notre cœur est son habitation. Dès le jour où nous avons accepté Christ dans nos vies, il habite parmi nous à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Si Christ n'habitait pas en nous, s'il ne vivait pas en nous, nous ne serions pas là ce matin pour le louer, l'exalter et le glorifier. Attention, il est toujours avec nous. C'est une promesse qu'il avait faite. Hein, quand il s'est présenté devant les disciples, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, la prière, la parole, l'amour sont plus puissants que les armes nucléaires et les bombes atomiques. Vous croyez ou pas? La prière, l'amour, la parole de Dieu, c'est plus puissant que les armes nucléaires.
ces âmes qui nous menacent.
Nous avons tous aujourd'hui une épée de Damoclès sur nos têtes
et nous sommes exposés au danger.
Le danger est là. Et la seule personne qui puisse apporter la paix dans ce monde en flammes et en sang, c'est Jésus, le prince de la paix.
Nous l'avons dit ce matin avec Pasteur Aldo, dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. »
Et ne s'alarme point.
Jésus est notre paix.
Nous ne pouvons pas construire sur les ruines, les décombres
et la division socio-spirituelle.
Non. C'est dans l'unité, mes frères et sœurs, que nous pouvons avoir notre édification.
C'est dans l'unité.
Est-ce que nous sommes unis?
Dans la prière sacerdotale, Jésus avait demandé à Dieu que nous soyons un comme lui et son Père. L'unité que Dieu veut entre nous est indispensable.
C'est comme les Italiens qui disent « Les cinq doigts collés sont forts. » Et si ces cinq doigts ne sont pas comme ça, il n'y a pas de force. Est-ce que vous êtes comme ça ce matin?
Si chacun cherche à tirer l'épingle du jeu, chacun cherche à son intérêt personnel, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'unité.
En Jésus, nous sommes un, comme Jésus et son Père. Est-ce que c'est comme ça ce matin?
Si c'est comme ça, nous pouvons construire. Nous pouvons nous édifier.
J'apprécie fort souvent cette citation de Kofi Annan, un ancien secrétaire général de l'ONU, qui dit « Si nous ne voulons pas mourir ensemble dans la guerre, nous devons nous mettre ensemble pour vivre dans la paix. » Et la paix que nous cherchons, c'est seulement en Jésus-Christ, nulle part ailleurs.
Quel que soit ce que vous entendez, hein, des déclarations, la paix, il n'y a que Jésus qui doit venir pour nous en apporter la paix. Notre âme offensive et défensive est la parole de Dieu. Cette âme est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants.
Et cette âme ne tue pas, elle sauve.
La parole de Dieu ne tue pas, elle sauve.
C'est une âme d'amour, c'est une âme de paix. David en avait fait l'expérience. Hein? Oui, David en avait fait l'expérience selon ce qu'il a écrit dans Psaume 20, les versets 8 et 9.
David dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux.
Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu.
Eux, ils plient et ils tombent.
Nous, nous tenons fermes et restons debout. Est-ce que c'est la prière qui est notre âme ce matin?
Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est notre âme ce matin?
Dans la prédication de Moïse, sur les lois de la guerre, il a écrit ceci. Dans Deutéronome, chapitre 20, le verset 1er, il dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre les ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » Frères et sœurs, notre consolation est ici, dans la parole de Dieu. Notre force est dans la parole de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin est là. Dans Somme 91, un somme que tout le monde récite, ou bien savoir presque par cœur, hein? Dans les versets 3, le psalmiste dit, dans cette situation, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Verset 3 à 7. De la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que vous êtes fort ce matin à travers la parole de Dieu? Il n'y a pas d'autre force. Si vous avez pensé que vous avez X, Y, de tel poste ou bien avec le pouvoir, il faut changer votre physique d'épaule. Parce que la force est en Christ et en Christ seul. Seul. Frères et sœurs, nous sommes en sécurité avec Dieu. Malgré tout ce qui se passe, si Dieu ne permet pas, rien ne peut nous arriver. Parce qu'il est toujours avec nous. N'ayons pas peur de ce qui se passe. Le mot fort, il faut que ces choses arrivent pour justifier la véracité de la parole de Dieu. Vous allez poser à Dieu des questions. Pourquoi vous laissez ça arriver? Pourquoi non? Il faut que ces choses arrivent. Et le pire, ce n'est que le commencement de la douleur. En attendant le retour de Jésus, veillons et prions, puisque nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. Que Dieu nous garde et nous protège en attendant son retour. Merci.